Ah, je peux pas pouvoir rester trop longtemps parce que je dois donner un biberon.
C'est vrai?
Je rigole. Je m'entraîne à le dire pour que ça fasse crédible. Je sais pas, le truc, tout est dégueulasse qui était là avant. C'est une relation sexuelle où il y a eu.
Il faut expliquer aux auditeurs, Brigitte Fontaine s'est fait des rails de sucre.
Oui, ça, elle a en fait, elle a pris.
Je peux pas poser mes mains.
On peut pas le décrire, mais elle a décrit. Elle a ouvert un sachet de sucre en poudre et elle a fait comme si c'était de la coke.
Non,
elle a pas sniffé, mais elle a fait des lignes.
Elle a fait des tas et puis après c'est devenu des lignes, mais c'est d'abord des tas.
Bah, c'est du sucre.
Malheureusement, c'est du sucre.
Vous avez des enfants, vous savez ce que c'est.
Oui, je sais ce que c'est. Mais c'est vrai que voilà. Donc oui, j'ai 4 enfants.
4 enfants. Votre spectacle s'appelle donc Le Petit Dernier. Vous y parlez de paternité. Vous dites qu'à chaque fois que vous avez un enfant, vous faites un nouveau spectacle. C'est vrai?
Oui, ben j'ai fait très très haut débit, 0,40 fournisseur d'excès. Et effectivement, là, voilà.
Le petit dernier, mais vous allez faire d'autres spectacles, d'autres enfants, je veux dire.
si vous êtes disponible.
C'est peut-être trop jeune, Anne. C'est très gentil à vous, mais là, je ne peux plus avoir d'enfants, Olivier. Je sais que je fais très jeune, mais il y a un truc qui s'appelle la ménopause,
ne
vous voyez.
Ne mentez pas, Anne.
Non, je ne peux plus avoir d'enfants. Hein.
Mais on va pas parler de la ménopause d'Anne Romain. C'est une radio sérieuse, on adopte.
Je fais 44 ans, mais j'ai 54.
Non.
À 44, on peut encore avoir un enfant, mais 54, non.
On va adopter Anne.
Adopter nous deux?
Oui, on pourrait très bien, comme ça on aura un enfant tous les deux.
Oh là là, non. Non, parce que moi, j'apprécie, vous verrez, quand les enfants grandissent, bon, on a d'autres soucis parce qu'ils demandent tout le temps de l'argent. mais je trouve quand même que c'est on retrouve une liberté.
Mais je sais, en vous voyant, c'est vrai que on a vraiment tout qui sont partis.
C'est vrai,
elle a gagné 10 ans, Anne, depuis qu'ils sont partis, ses enfants. Non, mais c'est vrai que moi je fais en sorte qu'ils partent le plus vite possible.
Oui. Alors là,
ils ont 4 ans donc.
Le dernier a 3 ans et l'aîné a 15 ans quand même.
14 et d'ailleurs mon aîné, ma fille aînée, et je le dis parce que c'est elle m'a dit elle veut devenir humoriste.
Ah, c'est vrai?
Ça y est. Elle me dit, je suis fier, je serai le premier humoriste de la famille.
C'est drôle.
Je ne sais pas comment je vais le prendre, mais voilà, sur les pas d'Anne Roumanoff.
Elle a dit qu'elle voulait me ressembler, non?
Non,
elle n'a pas dit ça. Elle a dit qu'elle voulait faire le même métier. C'est pas pareil.
Non, elle n'est pas. Mais je l'incite. Non. Parce que je le dis à chaque fois que je suis dans cette émission, quand on me demande quel type de carrière je souhaite une carrière à la Anne Roumanoff.
Tu veux être ménopausée?
Non, je veux ça. Bon,
c'est très bizarre.
Je veux déjà avoir des chroniqueurs de talent à mes côtés. Et voilà, c'est pour être sympa tout à l'heure. Et surtout, non, mais voilà, Anne, vous avez commencé il y a 40.
Il y a 40 ans!
Il y a 80 ans!
J'ai commencé.
Ça s'appelait les maternelles avant la classe.
Mais non, j'ai commencé c'était en 87, c'était il y a 33
ans. Imagine, ça s'appelait
33 ans.
Europe numéro 1, Antenne 2.
Non, mais je te jure.
C'est vrai, je me suis dit, la télé est passée en couleur l'année où vous êtes arrivé, je crois.
Je crois même
qu'il y avait encore l'ORTF.
Vous savez que j'ai tout un texte sur vous, Olivier de Benoît. Je serais vous, je serais moins le Mariol. Parce que mon texte est gentil, mais je peux le changer.
Non, j'ai rien dit. En tout cas.
Alors voilà le pitch de ce nouveau spectacle. Après avoir beaucoup parlé de sa belle-mère et de sa femme dans ses premiers spectacles, Olivier de Benoît a décidé de se fâcher avec les seuls membres de sa famille qu'il supportait encore, ses enfants. Vous n'avez pas peur pour votre retraite?
Alors, c'est vrai que je n'y avais pas pensé. Non, mais parce que. Par contre, il y a un truc qui est vrai, c'est que Chan, mes fils, peut-être qu'il va m'aider, il veut devenir président de la République.
C'est vrai, lequel?
Oui, mon fils préféré. Et en fait.
Quel âge il a?
Il a 9 ans. Et d'ailleurs, il se prépare hein, à être président de la République. Et il a dit à sa mère: t'aurais pas des copines de ton âge qui pourraient se marier avec moi?
Alors, sur l'affiche de votre spectacle, Le Petit Dernier, c'est votre véritable enfant que ça va faire la photo? Ah oui, je me disais, parce qu'il est très beau.
Alors.
Si on me cherche, on me trouve, moi.
Le clash est belle.
Cet enfant est très photogénique. Vous n'avez pas peur qu'on croie que votre femme vous a trompé, Olivier de Benoît?
Je le dis à tout le monde, je suis le mari, mais est-ce que je suis le père?
Surtout que votre femme est très belle.
À chaque fois, vous le dites, elle l'entend et elle me demande à chaque fois un cadeau. Donc ça me coûte une fortune de dire cette émission.
Alors, Mickaël qui regarde des choses à vous dire, Olivier de Benoît.
Bon, alors bonjour, Olivier de Benoît. Bonjour, Olivier, Marie, Emmanuel de Benoît de Gentissart, puisque vous êtes noble, hein. Bon, noble belge, mais noble tout de même. Alors, les deux Benoît de Gentissart, il faut le savoir, sont l'une des familles contemporaines de la noblesse belge, originaire du Hainaut, et reconnue noble en France. Et à cet égard, je trouve qu'on ne vous a pas accueilli comme il sied à votre rang. Et j'aimerais que l'on répare ce faux pas. Gens de l'assistance, gens de dames, gens d'amoiseaux, paysans, paysannes, faites place pour sa seigneurie, le baron Olivier Marie Emmanuel de Benoît de Gentissart. Et là, le peuple peut applaudir à tout rompre.
C'est drôle.
Merci les gueux. Alors, Olivier de Benoît, le titre de baron a été offert à votre famille, à votre ancêtre, Charles Eugène, par l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche en 1778 pour un service rendu qui était d'ordre charnel et sexuel. Hein. Il a pécho l'impératrice. Alors, je ne sais pas si c'est resté une tradition familiale chez les de Benoît, mais si c'est le cas, sachez qu'en ce moment, en Angleterre, il y a une place de prince qui vient de se libérer. Si vous n'avez rien contre les vieilles dames, il y a un titre à gratter là, moi. Je
c'est
pense.
Le,
hein,
c'est le truc de Sussex, c'est ça ?
C'est ça. Ah
ben, faut aller sur YouPorn.
Voilà. En tout cas, je suis heureux de voir parce que bon, je sais que la patonne aimerait que je m'inspire de gens comme vous pour acquérir un peu plus de classe. Mais j'y arrive pas, hein, ça le fait pas, c'est pas de ma faute. Moi, quand je mets un smoking, je ressemble pas à James Bond, je ressemble à un serveur, c'est comme ça.
Ah ben. Tu ressembles à un vigile.
Voilà, ouais, un vigile. Hein, je sais pas où tu vas pour voir des vigiles en smoking, mais bon. C'est pas au McDo. Alors bon, c'est comme ça, il y a des corps qui ne sont pas faits pour porter le costume, comme il y a des corps qui ne sont pas faits pour le sport. Et c'est pas la patronne qui dira le contraire.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Michael ?
Hein ? Non, rien, je veux dire, vous portez bien le costume, quoi. Cela dit, en ce qui me concerne, je fais des efforts, j'ai emménagé dans le très chic 16e arrondissement, ce qui, à l'évidence, a fait grimper mon standing, et en même temps, je vous cache pas que ça a fait baisser le standing du 16e.
Ah non, bah, mais en plus, pas n'importe où dans le 16e, il habite à deux pas du Trocadéro.
Ah, t'as mais c'est bien pas une blague.
C'est bien
non, ça. Je l'ai croisé. Non, je l'ai croisé dans le 16e.
Mais je suis dans un quartier de Bourges, c'est bien simple, je suis à deux pas de chez Anne.
Non, parce que j'ai déménagé. Moi.
Non mais là moi ça a fait baisser un petit peu là l'appart qui est sur mon palier il vient de tomber à 12 euros le mètre carré donc, en tout cas j'ai compris que si je voulais acquérir un petit peu de classe, un peu de noblesse il allait falloir que je change de mode de vie, par exemple fini la boxe thaïlandaise, faut que je me mette au polo, au jumping, à la chasse à cours, parce que oui quand on est noble on fait rien à pied, même pas le sport hein. Mais bon, ça me dérangerait pas parce que j'avoue que j'aime beaucoup votre style Olivier de Benoît, surtout votre courage, cette sincérité quand vous parlez des femmes, par exemple non c'est vrai, il faut du courage pour parler des femmes comme il le fait. Et non c'est vrai parce que bon moi qui vous cause. Bon, je travaille avec une femme et moi aussi, si je voulais, je pourrais vous en dire si elle n'était pas là. Alors, voilà, je vais m'arrêter là parce que vous êtes venu pour nous parler de votre spectacle Le Petit Dernier et personnellement, j'ai pas du tout envie que cette chronique soit ma petite dernière.
Oh, elle est belle !
Vous faites un test aussi dans ce spectacle. Quel père de famille es-tu ?
Oui.
Alors ?
Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous réveiller énervé le matin parce que le petit-déj n'est pas prêt et votre femme n'est pas là et vous rappelez soudainement « Ah oui, c'est vrai, elle accouche aujourd'hui ». Voilà, donc le public répond. Ou une dernière question, par exemple, alors c'est un questionnaire, vous voyez passer une alerte enlèvement à la télé, vous dites petit A, quel drame, petit B, pourquoi ça n'arrive toujours qu'aux autres.
Vous parlez du choix du prénom dans le spectacle, Olivier
de
Benoît.
Parce que le choix du prénom, parce qu'avec ma femme, on a essayé de prendre chacun le prénom de notre grand-père pour faire un prénom composé. Bon, ça faisait Émile Louis, donc on n'a pas fait. Du coup, on a pris le prénom de notre autre grand-père, du coup, il s'appelle Guy Georges et on est ravis. Par contre, je tiens à dire un truc que je comprends pas, et Anne, je sais pas si vous l'avez écrit sur vos faire-part de naissance, c'est la taille et le poids. Est-ce que quelqu'un a, est-ce qu'il y a un intérêt particulier à dire qu'il pèse le bébé 3 kg et 300 grammes, 3 kg et il pèse 30 cm à la naissance ? Ça n'a aucun sens ?
C'est pas un record.
Vous l'avez fait, bon, vous l'avez fait, vous, sur les faire-part ?
Oui, je l'ai montré, oui.
De 3, non, mais, du coup,
d'ailleurs, j'ai pas compris parce que moi, j'ai une de mes filles, elle pesait 2,9 kg et j'avais quand même énormément mangé. Et je comprends pas où ça a été, c'est resté dans mon corps.
C'est resté là.
C'est resté dans mes cuisses, alors qu'avec tout ce que j'ai mangé, elle aurait pu peser au moins 3,5 kg.
Et moi, j'imaginais me dire, mais à ce moment-là, il faut le faire. Si on fait ça, faisons-le partout, faisons aussi pour les faire part de décès. Mamie nous a quittés, elle pesait 30 kilos et pesait mesurait 1m74, papy va bien. Oui.
C'est quoi l'éducation positive, Olivier de Benoît ?
L'éducation positive, c'est une éducation qu'on n'a pas reçue, c'est une éducation qui, on remplace le tu par le je. On dit plus à un enfant, tu n'as pas rangé ta chambre. On lui dit, je vois qu'il y a encore des jouets sur le tapis. On est quand même très loin de la torgnole.
Et alors, ils rangent leur chambre
Moi, je ne le fais pas. J'explique. Ah. J'ai commencé à le faire. Je dis par du coup, je commence à le faire. Je dis plus à mon fils Gaspard, arrête de frapper ta sœur. Je dis, waouh, super enchaînement droite-gauche. Il va faire la compétition.
Donc, c'est faire des compliments.
Oui,
alors.
Mais c'est ça, en amour, ça marche aussi. Oui, il faut pas dire. On est ensemble. Je dois pas dire, Anne, tu m'as déçu, etc. Anne, en fait, j'ai un peu mal pris ce truc. Il faut tout ramener à soi.
Je dis plus à ma femme, tu vois, voilà. Je dis plus à ma femme, ta bouffe est dégueulasse. Je vais au resto, ma chérie, à tout à l'heure.
Voilà, ça change tout.
Ça marche.
Je te dispute moins.
Et le problème, c'est que ma femme, aussi s'est mise à l'éducation positive. Elle me dit plus, Olivier, t'es trop rapide au lit. Elle me dit, chouette, je vais pouvoir regarder la météo avant The Voice.
Laurent Barra a des choses à vous dire, Olivier de Benoît.
Oui, Olivier de Benoît, je voudrais au nom de tous les hommes célibataires sans enfants que je représente aujourd'hui, vous remercier du fond du cœur. Plus moderne que les conseils d'un père, plus réel qu'un tuto YouTube, vous vous évertuez de spectacle en spectacle à nous mettre en garde contre cette vie de famille que la société moralisatrice tente de nous imposer. C'est donc pour vous aider dans cette lourde tâche que je me suis rendu ce week-end chez un couple d'amis en terre inconnue. Jérôme et Christelle sont un couple d'amis. Ils ont deux enfants, une petite fille de 2 ans et un garçon de 8 ans. Mon arrivée dans cette jolie tribu est fêtée dans la plus pure tradition des couples avec enfants. Je ne suis plus Laurent, mais tonton Laurent. Montre à tonton Laurent le beau dessin que tu as fait de lui. Et là, si tu avais commencé un petit boulot personnel sur l'acceptation de toi-même pour gommer quelques complexes physiques, c'est foutu, faut tout recommencer. Plus tard dans la journée, on me fait l'honneur de me convier au spectacle de fin d'année du plus grand. Sympa, mais long quand même, long. Pourquoi est-ce que c'est long comme ça, les spectacles de fin d'année des enfants ? Je suis un coquelicot, 2 heures. Et ton gamin qui n'arrive jamais, lui est arrivé au bout d'1h25 de spectacle, déguisé en oignon. Il a traversé toute la scène, on l'a plus revu. Il va pas revenir, l'oignon, là. Bon, la soirée se termine assez tard, aux alentours de 19h. Les enfants sont couchés, nous chuchotons pour ne pas les réveiller. Et en regardant mes amis, les yeux rougis par la fatigue, je me demande s'ils ont encore du désir l'un pour l'autre. Lui, en short Marcel, elle en jogging crocs. Et même s'il leur reste un peu de libido, comment arriveront-ils à s'accoupler sans réveiller les enfants ? Chérie, chérie, chut, il s'est endormi. Je vais te déglinguer. Épuisé, épuisé par ce voyage, je rentre chez moi dans mon petit studio parisien pour regarder un DVD de l'idole Olivier de Benoît. Sans femme ni enfant, mais enfin un terrain connu.
Bravo. Ah, super. Il y a du niveau, hein.
Ah bah oui. Alors les spectacles de fin d'année, Olivier de Benoît avec 4 enfants, vous y allez au spectacle
ouais,
de fin d'année?
Ouais, j'y suis allé, mais c'est vrai que c'est encore plus long que ce que décrit Laurent, ouais. Malheureusement. Non, mais c'est vrai que dans des... non, mais moi je suis très touché.
Par les spectacles, bah, c'est vos
oui,
enfants, bien sûr.
Oui, parce qu'en fait, voilà, donc je vois les parents, ils filment 2 minutes, ouais. Leur passage, et après ils rangent leur téléphone, il y a à côté, voilà.
Donc vous filmez aussi vous?
Voilà, moi je filme les jolies mamans.
Et alors la vie sexuelle après les enfants,
c'est... Je vois avec les jolies mamans, le lien est parfait.
La vie sexuelle après des enfants, Olivier de Benoît, c'est compliqué
Il faut juste trouver une partenaire qui soit d'accord.
Alors votre spectacle, Olivier de Benoît, s'appelle Le Petit Dernier. Je vais vous faire un interview. Dernière fois, il faut répondre très très vite. La dernière dispute, c'était à propos de quoi, Olivier de Benoît ?
Qui fait la bouffe ?
Ah oui ? Et alors, qui a gagné ?
Malheureusement, elle.
Bah, elle fait pas bien manger, votre femme ?
Non, mais moi, je suis pire.
La dernière fois que vous avez fait l'amour ailleurs que dans un lit, c'était où ?
Oh là là, c'était malheureusement dans mes rêves.
La dernière promesse que vous avez faite, c'était quoi, Olivier de Benoît ?
Mais c'était à mon fils, à ma fille de 2 ans, je lui ai dit que j'avais voilà que j'allais lui raconter une histoire. J'ai fermé la porte et je suis parti.
La dernière fois que vous avez dit OK, un petit dernier pour la route, c'était quand, Olivier de Benoît ?
C'était avant-hier soir et j'ai fini à 4 grammes. Mais voilà, et c'est à ce moment-là voilà qu'on a décidé d'en faire un cinquième.
La dernière fois que vous êtes dit plutôt pas mal en vous regardant dans le miroir, c'était quand ? Et la dernière fois en regardant le miroir, vous êtes dit faut faire quelque chose, c'était quand ?
La dernière fois que j'ai regardé dans le miroir pas mal, c'était parce que vous étiez juste derrière.
Oh, il sait parler aux femmes. Ah
ouais. mais c'est ce que vous me demandez de lire.
Oui.
Non, et la dernière fois, non, c'était il n'y a pas longtemps, parce que j'ai une nouvelle coiffure, ouais. Et je me suis dit, tiens, je ne suis pas si mal. Et la fois précédente, c'est quand une fille m'a dit que je faisais 30 ans.
Moi, c'était qui cette fille ?
Une aveugle.
Je me regardais avec une haine extraordinaire.
Non, mais non, c'était qui ?
Mais c'est pas non, une fille qui m'a vu et qui m'a dit, vous ne devez pas
vous
avoir
draguez.
30. Oui, alors peut-être, mais je suis plus habitué. Moi, je suis plus habitué.
Vous n'avez pas remarqué quand vous êtes connu, il y a des femmes qui viennent vers vous, alors que votre femme, elle est là depuis le début. Elle vous fait des enfants. Elle a eu le corps déformé par les grossesses.
Calmez-vous.
C'est très bon. Non, mais c'est vrai que cette fille de 30 ans, c'est vrai que j'aurais dû avoir un avis puisqu'elle n'était pas habillée. J'aurais dû avoir un indice.
Mais faut arrêter de l'engueuler, Anne. Ça n'est pas votre ex. Oui, c'est un invité.
Olivier de Benoît, la dernière fois qu'on ne vous a pas reconnu, vous l'avez bien pris ?
Oui, parce que ça m'arrive de très 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 souvent. Et heureusement, parce que sinon je ferais la gueule toute la journée.
Qu'est-ce qu'on vous dit dans la rue, Olivier de Benoît ?
La dernière fois, on m'a. La fois, à propos de connu pas connu, la seule fois où j'ai eu un petit souci, c'est quand on m'a dit à la fin. Je dis que je fais des autographes pour ceux qui le souhaitent. Et on m'a dit, il y avait 2 personnes, j'y suis allé quand même. Et ils ont dit, ce qui est bien avec vous pour les autographes, c'est qu'on n'attend pas.
Olivier de Benoît, la dernière fois que vous avez demandé, alors c'était bien, c'était après avoir lu un sketch, après avoir préparé un dîner ou après l'amour?
Après avoir fait l'amour, mais elle dormait déjà.
La dernière fois que vous avez dit je t'aime, Olivier de Benoît, c'était il y a longtemps ou c'était hier?
Je suis très pudique.
Vous dites
donc,
pas je t'aime.
Je dis pas je t'aime.
Bah
je
là, vous allez le dire à votre femme.
Alors, je t'aime, voilà.
Et
donc, du coup, elle me doit quelque chose. Du coup, elle me doit quelque chose.
Pourquoi?
Parce que je viens de lui faire un beau cadeau.
Mais dites son prénom.
Caroline.
Alors, dites.
Je t'aime. Putain, j'ai l'impression d'être chez une psy.
Avec le fusil sur la tempe.
Exactement. Non, mais je t'aime, Caroline, voilà.
Non, c'est mais beau. Un peu de feeling. Voilà.
Je t'aime, Caroline.
Oh, oh, ça, c'est beau.
Mais je préfère Anne.
La dernière fois qu'on vous a pas laissé rentrer en soirée, Olivier de Benoît, c'est...
Je sors plus.
Ah bon.
Moi, je fais partie de ces pères qui s'endorment avant leurs enfants. Moi, je sors plus. Non, mais c'est vrai, je ne vais plus en boîte de nuit, je ne sais même plus à quoi ça ressemble.
Moi, le contraire.
Ah ouais, vous alors.
Ouais, j'ai appris dans un article que vous faisiez des sorties de boîte de nuit.
Ouais.
Ah, mais elles sont géniales.
Il y a des
trucs
qui sont sortis carrément.
Ouais. J'ai vu ça, c'est incroyable.
Pourquoi c'est incroyable?
Ah non, ouais, on est déjà sortis ensemble, elle se fait draguer grave. Hein.
Mais je sais,
les mecs qui viennent la voir et tout ça.
Ah oui?
Bien sûr.
Bah quoi, ah oui.
Le mec, il est étonné.
Olivier de Benoît, dernière question. La dernière fois que vous êtes venu me voir en spectacle, c'était bien, très bien, génial, ou vous avez pas encore reçu l'invite?
J'ai pas encore reçu l'invite et je suis impatient parce que j'aime beaucoup l'affiche.
Vous aimez mon affiche?
Oui, j'aime beaucoup votre affiche, elle est hyper girly.
Ah oui? Et moi, quand vous me voyez à côté?
Je vois pas l'affiche. Il y a eu un travail de graphisme extraordinaire.
Bonjour Aïssa Maïga.
Bonjour Anne Roumanoff.
Bienvenue sur Europe 1. Vous avez été révélée dans les poupées russes et votre actu est en forme de poupée russe. Il y en a une qui cache une autre, ainsi de suite.
C'est pas faux.
Vous avez déjà entendu parler d'un concept assez répandu qui s'appelle les vacances?
Ça me dit quelque chose. J'en rêve, hein. Je ne le cache pas.
Vous avez une boulimie de travail, Aïssa Maïga?
Non, je ne suis pas boulimique. Moi, j'adore ma vie quotidienne sans travail aussi. J'adore les vacances et tout. Mais c'est vrai que dans ce métier, quand les belles occasions se présentent, on n'a pas envie de partir en vacances.
Alors, on peut aussi vous voir, Aïssa Maïga, dans le documentaire Pygmalion de Quentin Delcourt, qui a choisi de mettre en lumière 11 femmes du milieu du cinéma, dont vous. Il a déclaré au sujet de ces femmes, « Si fort, heureusement, une certaine parole se libère. Ne serait-il pas bon d'agir et de parler de vous à travers vos films plutôt que de balancer des ports sans pour autant que les consciences ne s'éduquent réellement.
Quentin a dit ça?
Ouais.
Bon, j'ai pas tout bien compris. Mais en tout cas...
C'était bien.
On le remercie.
Mais en tout cas, Quentin Delcourt, c'est quelqu'un qui a fait ses études en partie en France, mais aussi au Québec. Et il faut savoir que la question de la diversité au Québec, elle est vécue très différemment.
Comme dans toute l'Amérique du Nord.
Comme dans toute l'Amérique du Nord. Et là-bas, c'était complètement normal que dans les séries, dans les films, au cinéma, soient représentées toutes les franges de la société, sans distinction de race, de classe, de genre, d'orientation sexuelle, de religion, etc. Et donc, quand il est revenu en France, ça lui a fait tout bizarre. Et il a décidé de donner la parole aux femmes dans ce documentaire qui s'appelle donc Pygmalion, un mot nouveau qu'on adopte complètement. Mm-hmm. C'est bien de féminiser certains mots et là, ça donne beaucoup de puissance à ces femmes qui sont plus des mentors que des muses. J'ai vu ça dans un article et je trouve que c'est assez juste. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a à la fois donc, des actrices, donc c'est des figures auxquelles on est habitué, mais aussi une agent artistique, Elisabeth Tanner, une chef opératrice qui est donc en charge de l'image, de la caméra, des exploitantes de salles, etc. Et ça donne un panorama assez complet de ce que peuvent vivre les femmes et de ce que sont dans le cinéma et de ce que sont les challenges, les choses qu'on doit dépasser.
C'est un milieu très machiste, le cinéma.
Je pense que le cinéma est à l'image du reste du pays.
Oui, mais encore
maintenant.
C'est-à-dire
qu'il est divers. Donc il y a des gens qui sont des réactionnaires et puis il y a des gens qui sont à la pointe de certains combats. C'est assez divers. Mais par contre, je pense qu'on se doit d'être un petit peu en avance sur son temps dans le cinéma.
Il faudrait, normalement.
Parce qu'on a la chance d'être en contact avec tellement de gens. On a la chance, en général, de voyager. Moi, quand je prépare un rôle, du coup, je me documente. Donc, ça ouvre mon esprit. Donc, il est pour moi impensable que dans un milieu qui est censé être aussi ouvert et qui se targue de l'être, qu'on soit dans quelque chose qui n'est pas de l'ordre du progressisme réel.
Mais vous trouvez que les choses bougent à Aïssa Maïga ou que c'est long quand même?
Les deux.
Ça bouge,
les deux
mais
en général. Non, mais ça bouge beaucoup trop lentement. C'est-à-dire évidemment qu'il y a des avancées.
Y a quand même
sinon, je ne serais même pas là pour en parler.
Oui, mais il y a quand même une grande différence entre les discours. Tout le monde est toujours d'accord de faire des beaux discours, oui, et la réalité des choses.
Alors, c'est vrai. Et il y a en même temps une réalité générationnelle. Je pense que les jeunes qui arrivent sont dans une fluidité par rapport à la question de la diversité. Et pour eux, c'est complètement normal de regarder des films, des séries avec des gens très différents les uns des autres. Ça fait partie de la normalité. Et du coup, les chaînes classiques françaises notamment sont obligées de se mettre à la hauteur. Donc elles commencent à se tourner vers le digital et elles commencent aussi dans leur programme à envisager des personnages noirs normaux.
Qui ne soient pas des prostituées ou des dealers.
Et surtout, qui ne soient pas des rôles caricaturés. Parce qu'il peut y avoir des rôles de prostituées, de dealers magnifiques. Il y a eu des rôles majeurs dans le cinéma avec ce genre de personnages. Le problème, c'est surtout la façon dont c'est traité. Le fait que ce soit stéréotypé, cliché et parfois, pourquoi pas raciste.
Mais ça bouge, ça, quand même.
Mais ça bouge. Ça bouge parce que les gens sont prêts à entendre déjà dans le milieu. Ce qui est une différence incroyable avec ce que j'ai vécu à mes débuts au siècle dernier.
Au siècle dernier. Aïssa Maïga,
on a perdu Aïssa Maïga.
Racontez-nous ce qui a changé depuis le siècle dernier, alors.
Bah, ce qui a changé, c'est qu'il y a une prise de conscience générale sur la question des femmes, sur la question des droits des femmes, de l'égalité homme-femme, des droits des enfants, et aussi sur la question ethno-raciale, sur la question des minorités qu'on appelait visibles au siècle dernier.
Vous avez quitté le Sénégal à l'âge de 4 ans avec votre père, sans votre mère. Ensuite, votre père meurt quand vous avez 8 ans et demi. Vous êtes élevé par votre oncle et tante.
Oui.
Et c'est quand même un début de vie qui n'est pas facile. Et quand on vous voit tellement rayonnante, tellement belle, heureuse.
J'ai eu mes drames. Et puis, ils m'ont bousculée, mais ils m'ont aussi construite. Et ils m'ont construite parce que j'ai été accompagnée toujours de gens incroyables depuis la prime enfance jusqu'à aujourd'hui. Et ça, je considère que c'est ma bonne étoile. Les gens qui ont été mis sur mon chemin, qui m'ont aidée à entrevoir ce qu'il y avait de puissant. Dans la vie, ce qu'il y avait de beau.
Il y a notamment
et puis moi, je suis comme ça. J'ai mes coups de mou, mes moments de spleen, de petites déprimes. Ça peut m'arriver, mais la plupart du temps, quand même, il suffit que je regarde le ciel. Il suffit que je pense aux gens que j'aime. Il suffit aussi parfois que je compare avec ce que d'autres peuvent traverser. Et je me dis, non, mais wesh. J'ai trop de chance. Mais j'ai
non,
trop de chance.
Wesh, j'ai trop
de chance.
De la chance.
Il y a notamment
j'ai trop de paillettes dans ma vie.
Il y a notamment une voisine qui a été comme une grand-mère adoptive et qui a eu une phrase quand même qui a été très importante pour vous. Elle vous a dit: Aïssa, il y a des gens qui t'aiment et qui t'entourent, mais dis-toi que tu n'es pas comme la plupart des enfants, tu es seule désormais sans ta mère ni ton père, il faut que tu sois forte.
Ouais. Et en fait, ça a été une phrase très importante parce que quand mon père est décédé, bah, comme beaucoup d'adultes à l'époque, dans ma famille, les gens ne savaient pas trop comment l'annoncer. Ils ont pris le temps pour me protéger, etc. Et donc, les adultes, en voulant vous protéger, parfois vous éloignent du réel. Et cette femme, qui était vraiment comme ma grand-mère, hein, que j'adorais, elle m'a dit ce qu'était la réalité. Elle a mis des mots sur ce que je vivais. Et finalement, même si c'était un peu dur à entendre, d'abord, elle était là pour accueillir ma peine. Mais surtout, c'était vrai, je pouvais m'appuyer là-dessus pour continuer. Il faut dire la vérité.
Mais quand même, c'est rare de voir quelqu'un d'aussi rayonnant.
Mais vous êtes trop sympa. Moi, j'ai envie de... Mais vous voulez pas m'adopter?
Oh, j'ai déjà...
Venez, on devient sœur.
Oui, parce que moi, là, je regarde Aïssa et elle a déjà vos yeux.
Bonjour Thierry Lhermitte.
Bonjour Andrew Manoff.
Thierry Lhermitte, alors vous êtes à l'affiche du film de Fabrice Braque, Joyeuse Retraite, ouais. C'est le premier film de Fabrice Braque. Qu'est-ce qui vous a séduit dans le scénario?
D'abord, quand on a envie de tourner les pages, déjà, c'est un bon critère. Et puis, un bon esprit un peu acide, parce que c'est des grands-parents absolument infects, tous les deux, qui ne veulent pas s'occuper de leurs petits-enfants. Ils sont très égoïstes, ils veulent partir en retraite. Donc c'est et puis, à la fin, ils comprennent la valeur de la famille. Mais c'est un bon esprit assez marrant. Puis alors, j'avais vu un court-métrage de Fabrice Braque qui a eu plein de prix avec Michel Simès, dans lequel il faisait un médecin qui recevait des patients et à la suite des analyses qu'il venait de recevoir, il pouvait leur annoncer qu'ils étaient cons. Voilà. C'était ça.
Alors, je ne sais pas si on peut le dire, mais Michel Simès fait un clin d'œil dans le film.
Oui, il joue dans le film, absolument. Ouais.
Alors, en parlant de votre duo avec Michel Larocque, le réalisateur Fabrice Braque a dit: nous voulions quelque chose d'inédit, mais aussi drôle et élégant, une sorte de couple à Audrey Hepburn, Cary Grant. J'adore ces comédies à la fois légères et graves des années 50. Cary Grant, là, ça vous plaît cette comparaison?
Oh oui, oui. Lui est d'accord aussi, il paraît.
Thierry Lhermitte, ce rôle dans Joyeuse Retraite, vous ne l'aviez jamais...
Non, j'avais jamais fait. Là, le mec, il est très lâche. J'avais déjà fait des mecs très lâches, mais là, il est vraiment très, très lâche avec sa fille.
D'ailleurs, dans le couple que vous incarnez avec Michel Larocque, c'est un peu elle qui dirige, en fait.
Ah oui, oui, elle est méchante comme une teigne. Et moi, je suis très lâche, je dis oui, je répète tout ce qu'elle dit.
Et vous êtes un fonctionnaire
Oui, elle travaille à l'administration fiscale, qui a sa retraite.
Elle tenait un cabinet de dentiste.
Voilà, elle était dentiste, et donc elle saute sur l'occasion pour partir en retraite sans les petits-enfants.
Donc ils veulent aller au Portugal, ils sont emballés par le projet, et là, qu'est-ce qui se passe?
Ben, ils ne peuvent pas partir parce que la mère est malade, parce que toutes sortes
la
de
mère
raisons.
Judith Magre, et puis la fille Nicole Ferroni est en train de se séparer.
Se séparer, voilà, et ils ont deux enfants, Nicole Ferroni qui est odieuse, là, qui était très très pénible.
Vous parlez du personnage.
Oui, le personnage, elle est merveilleuse. Et puis un fils qui est bête comme ses pieds aussi. Non, c'est vraiment
c'est très
beau petit esprit. Voilà.
Et alors, donc, ils deviennent. Alors, du coup, ils essayent de dégoûter, de décourager la fille, de vous confier les petits enfants.
Ben oui, en plus, on aime bien le. Dans l'histoire, on aime bien le gendre. Donc, on est navré parce qu'il est bricoleur. Donc, il vient réparer les trucs à la maison. Non, mais on
donc, vous regrettez le départ du gendre.
On est épouvantable.
Et vous voulez. Et comment vous faites pour dégoûter votre fille alors vous racontez alors, n'importe
quoi. On raconte n'importe quoi. Elle, en plus, elle a une aventure avec un mec qu'on essaie de saper. Enfin, voilà. Donc,
c'est des grands-parents indignes, en fait.
On est moche, très, très moche. Ouais,
alors, en plus du cinéma et du théâtre, Thierry Hermite, vous êtes depuis 15 ans parrain de la Fondation pour la Recherche Médicale, qui finance des projets innovants et apporte une aide considérable aux chercheurs. Et alors, vous dites, pourquoi vous êtes devenu parrain de cette fondation? Vous répondez, parce qu'on vous l'a demandé?
Oui, parce que je ne me serais pas imposé pour être parrain de la FRM, mais parce que ça me passionne, que la recherche est vraiment un truc extraordinaire, qu'on en a besoin.
Votre grand-père était neurologue, votre oncle était neurologue.
Oui, et donc la Fondation pour la Recherche Médicale, la FRM, c'est la deuxième plus grosse fondation, ils distribuent à peu près 50 millions par an sur toutes les maladies.
Pour aider la Fondation pour la Recherche Médicale, alors c'est frm.org, où il faut envoyer...
Si on veut envoyer 10 euros... Ceux qui seront prélevés sur sa facture de téléphone, on envoie le SMS don, D-O-N, au 92-300.
Et on donne 10 euros comme ça.
Et ces 10 euros sont prélevés et sont donnés à la Fondation pour la Recherche Médicale.
Don, c'est en majuscule, sinon ça ne marche pas.
Ça n'a aucune importance. D-O-N.
Au 92-300.
Et le 92-300, il se trouve que c'est également le code postal de Levallois-Perret.
Oui.
Mais ça
je vois la rapprochement.
Ça ne vient pas alimenter la cagnotte des Balkany. À la Fondation pour la Recherche.
Alors, Thierry Lhermitte, il paraît que vous souffrez d'une maladie rare, méconnue, la prosopagnosie.
Oui, alors c'est un peu exagéré. Non pas la prosopagnosie, mais le fait que ce soit une maladie pour moi, parce que je ne suis pas physionomiste.
Vous ne reconnaissez pas les gens.
Je ne connais pas très bien les gens.
Là, par exemple, vous me reconnaissez?
Oui, on m'a dit qui j'allais voir, donc je vous reconnais. Mais,
par contre, ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas reconnu, c'est normal.
Non. Non, j'ai un peu de mal avec les visages, oui.
Ah, comme c'est comme ça.
C'est comme ça que ça s'appelle, la prosopagnosie. Il y a des gens qui tournent et là, c'était qui était là? Vous étiez là il y a quelques instants.
Voilà. De là à m'ignorer, papa, je trouve ça un petit peu...
c'est pour ça que vous êtes marié depuis si longtemps, Thierry Lhermitte. Tous les jours, vous avez l'impression d'être avec une nouvelle femme.
Exactement,
en fait,
c'est comme comme le film, exactement. Un jour sans fin.
Et alors, du coup, vous n'avez jamais croisé des gens qui vous ont fait croire n'importe quoi. Par exemple, c'est moi, Corinne, tu me dois 500 euros, tu ne te rappelles pas, Thierry?
Oui, je paye, j'ai trop peur.
Génial. Et alors, vous êtes aussi passionné par l'informatique, vous avez carrément même appris à programmer.
Non, à l'époque, au début de l'informatique.
Et vous jouez jeux vidéo pendant des heures et tout?
Ça m'arrive encore, ça m'empêche de dormir. Ben oui, parce que quand on a commencé un jeu, il faut gagner.
Voilà. Vous jouez avec Josiane Balasco, qui elle aussi joue beaucoup
elle
aux
aussi,
jeux
vidéo. Elle aussi, on joue au même jeu, mais pas ensemble.
D'accord.
Pas
réseau,
vous jouez avec Edge of Empires.
C'est un très vieux jeu.
Et alors vous faites quoi?
C'est un jeu de stratégie en temps réel, dans lequel on a des soldats, on a des petits habitants là, qui construisent des trucs, et puis il y a des gens qui nous attaquent ou qu'on attaque.
Mais qu'est-ce qu'ils disent vos enfants quand ils vous voient jouer aux jeux vidéo, Thierry Lhermitte?
Mon pauvre papa, ils
disent. Et vos petits-enfants?
Tu joues encore à ça? Parce que non, mais c'est un jeu qui doit avoir
20 ans.
Hein, ouais.
Et vos petits-enfants, ils vous disent quoi?
Ça les fait marrer aussi, oui.
Papy capitaine.
C'est un peu sidéré, quoi.
Vous êtes... Oui.
Non, mais c'est addictif, c'est très mauvais. Hein,
alors, vous êtes aussi un peu addict de Facebook, vous dites que vous y allez 25 fois par jour.
Mais c'est addictif, c'est horrible. Pourtant, je ne mets rien du tout dessus. Hein.
Il paraît que vous inventez des fausses citations.
Oui, pendant un moment, je faisais ça. C'est drôle.
Vous avez inventé pour voir le nombre d'abrutis qui vont liker. Voilà. J'ai mis une photo de Nietzsche et j'ai écrit dessous « Bois ce que tu crois, mange ce que tu espères
». Je vais liker celle-là.
Et celle qui a le mieux marché, vous dites « C'est un faux Voltaire, ne jugez pas ce que l'avenir a condamné ». années, le passé pourrait bien vous en absoudre.
Voilà, ça veut rien dire du tout. Et il y en a beaucoup. Enfin, voilà.
Et vous avez été fier parce que vos enfants n'ont pas liké les fausses citations.
Ouais, ouais.
Parce qu'ils vous connaissent.
Ça veut rien dire là. Ça veut dire quoi ? Non, mais c'est pas mal. C'est une preuve de bon sens.
Vous dites que vous n'aimez pas tellement parler de vous dans les interviews. Vous dites que c'est embêtant de parler de soi à des gens qu'on ne connaît pas.
J'ai pas spécialement envie de. Il y a des gens qui aiment bien s'expliquer.
Narcissiques,
ou qui aiment bien se faire connaître, etc. Non, moi, je viens parler de la fondation, du film que j'ai fait. Je dis trois conneries sur ma carrière. Voilà, mais sinon, non. Pourquoi j'irais partager le fond de ma pensée, ce que je suis en train de faire en ce moment-là, avec
c'est quoi
les fond millions de gens qui vous écoutent.
C'est quoi le fond de votre pensée, Thierry?
Je ne le dirai pas.
Ah,
mais parce que je réserve ça à des personnes choisies.
Oui, mais comme vous ne connaissez pas les visages des gens, c'est jamais des personnes choisies, en fait. Vous êtes tout le temps sur des nouvelles rencontres.
Je m'habitue à la voix, peut-être.
D'accord, c'est ça.
Ben H a des choses à vous dire, Thierry Lhermitte.
Oui, monsieur Thierry Lhermitte, bonjour.
Bonjour.
Ouais. Sachez que je ne sors les trompettes que pour les invités que je considère comme exceptionnels. Oui, je vous le dis en préambule, c'est un véritable honneur de vous rencontrer, monsieur Lhermitte. D'ailleurs, j'arrive pas à vous regarder dans les yeux plus de deux secondes depuis le début. D'autant que j'ai mal compris à la base, dans un premier temps, le but de votre venue et j'ai eu très peur. Anne me dit, on reçoit Thierry Lhermitte pour parler de joyeuse retraite. Quoi ? Joyeuse retraite ? Monsieur Thierry Lhermitte, arrête le métier ? Mais c'est pas possible, on dit que les meilleurs partent les premiers, mais là c'est beaucoup trop tôt. Et puis avec une aussi belle carrière, quelle tristesse de s'arrêter sur l'inclusive, je suis désolé. En plus, après Michel Blanc et Josiane Balasco, vous êtes mon troisième bronzé que je rencontre cette année, et vous êtes mon préféré. J'ai dit pareil aux deux autres, et j'ai hâte de le dire à Gérard Jugnot, mais c'est dire à quel point vous comptez pour moi. J'avais même préparé une rétrospective de Thierry Lhermitte, intitulée « De Popeye au dîner de con, retour sur le parcours d'un jeune premier devenu jeune retraité ». C'était tristounet, comme papier, vraiment à pleurer. On n'était pas loin d'une nécro à la Laurent Delahousse, le tout sur du violon larmoyant. Thierry Lhermitte, monument du cinéma français et dieu vivant des amateurs de Club Med. Thierry Lhermitte, l'homme derrière l'acteur, le cœur derrière les deux yeux bleus les plus célèbres du grand écran. Thierry Lhermitte, le clown qui a fait rire plusieurs générations de Français. Des rôles qui ont marqué l'histoire dans des films inscrits dans le patrimoine artistique hexagonal. Mais aujourd'hui, clap de fin. Pour celui qui souhaite désormais se consacrer à son autre passion méconnue du grand public. Le Scrabble. Et avant de dire complètement n'importe quoi, Thierry Lhermitte, j'ai alors reçu une invitation pour assister à la projection de votre dernier film intitulé « Joyeuse retraite » où je découvre que vous partagez l'affiche avec Michel Larocque. C'est alors que mon cœur reprit le cours naturel de ses battements et je vous ai donc retrouvé, cher Thierry Lhermitte, dans ce film comme l'enfant que j'étais. Vous avez découvert à l'époque dans « Un Indien dans la ville », l'un des tout premiers films que j'ai vu au cinéma. Vous dites aujourd'hui ne pas courir après les rôles et vous n'acceptez que les projets qui vous amusent. Eh bien, on voit que vous êtes amusé dans « Joyeuse retraite », dans votre personnage de grand-père blasé et cynique. On voit d'ailleurs que tout le casting s'est fait plaisir et tous les rôles de la famille sont soignés. Mention perso pour Nicole Ferroni, hyper drôle, et Judith Magre, hyper touchante. Un film qui traite de la retraite, mais qui ne s'adresse pas qu'aux vieux, je préviens. Hein, très loin même. Hein, il s'adresse à tous ceux qui ont une famille, finalement. Hein, et ça pourrait faire du monde. Si vous me permettez la comparaison, Thierry Lhermitte, j'ai pas vu un couple aussi horrible avec ses enfants depuis le film Tanguy. Eh bien, je vous souhaite le même succès, vous l'aurez compris. Comme beaucoup de gens, j'espère que vous allez vous amuser encore longtemps, car je crois de toute façon qu'un acteur ne s'arrête de jouer que lorsqu'arrive le générique de fin. Thierry Lhermitte, merci de m'avoir écouté.
Merci beaucoup.
Bonjour Chaïm.
Bonjour.
Bienvenue sur Europe 1.
Merci.
Alors je regarde la pochette de votre album, vous avez des cheveux impeccablement lissés, vous êtes assise nonchalamment sur le bitume, l'épaule dénudée, juste ce qu'il faut, un maquillage sophistiqué, mais qui fait genre vous n'êtes pas maquillée. Moi si je faisais la même pose que vous, les gens s'arrêteraient pour me donner une pièce.
Faudrait essayer.
Alors, comme toutes les chanteuses, elle nous fait croire que c'est comme ça que vous levez le matin.
Non, j'ai un petit magicien avec moi qui arrive assez tôt et qui met 2 heures à me préparer. Donc,
deux heures ?
2 heures, ouais, tout ça. Je vous assure, promis.
Il ne faut pas le révéler, c'est les
trucs. Non, mais là, vous êtes maquillée, là vous êtes...
Ah bah oui. Ah oui, je suis maquillée, je suis coiffée. Sinon, je me réveille avec les cheveux hirsutes et puis très, très fatiguée et cernée, comme tout le monde. Hein.
Ah, je suis hyper déçue, du coup.
Mais moi aussi, non, mais je suis maquillée, coiffée, ça ne rend pas pareil. C'est fou.
Mais t'as pas quelqu'un qui te coiffe pendant 2 heures.
Non.
C'est pour ça.
Tu fais ça en 5 minutes.
Oui, je fais ça toute seule.
À la truelle.
Gratuit.
Alors, Chaïm, parmi vos nouvelles chansons, Amiant, c'est le masculin de Amiante. C'est des garçons qu'il vaut mieux pas garder chez soi trop longtemps.
C'est ça. Non, c'est un jeu de mots entre ami et amant. Voilà, ouais. Donc on parle de ça dans ce
c'est
titre.
C'est un sex
avec,
friend, alors.
C'est un sex friend. On savoir si on passe la limite ou pas, ça nous arrive souvent. Je pense que quand on est jeune, enfin d'ailleurs même pas jeune,
ah, mais même vieille, je vous
même,
assure.
Même moins jeune.
Des amiants.
Des gens, on ne sait pas trop. Ouais.
Mais ça a été effectivement un peu le thème avec Joker qui pose avec moi sur ce titre. Et puis ouais, de parler des thèmes un peu universels, mais tourner autour de l'amour, c'est un peu le fil conducteur de l'album, mais c'est un amour voilà, différent, on va dire.
Alors vous dites, la première fois que vous avez fait une scène, vous avez été produit par le chanteur Camaro.
Oui.
Vous dites que c'était une très belle rencontre, parce que vous êtes toujours, c'est toujours lui qui écrit vos textes.
Alors pas le dernier album, mais on est toujours, c'est ma moitié. Quoi. J'ai besoin de lui pour prendre mes décisions, pour me sentir à l'aise, pour avoir confiance dans plein d'autres décisions, comme profilage, on en parlait tout à l'heure. Et ouais, c'est devenu un pilier dans ma vie.
Et alors, la première fois que vous montez sur scène, vous évanouissez.
Alors, je me suis pas évanouie, c'était en 2005, mais je suis tombée, mais malade. Mais comme, enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais ça a été un combiné de tout ce qu'on peut avoir comme symptômes. Et incapable de monter sur scène, enfin, j'avais des vertiges, ouais. j'avais tout. Et je me dis, mais c'est pas possible, je suis pas tombée malade en un quart d'heure. Et finalement, j'ai dû avoir une piqûre d'un médecin pour que ça aille mieux et que je puisse monter sur scène.
C'est une crise d'angoisse.
Ouais, une crise d'angoisse, mais fois mille, quoi. Vraiment, j'étais vraiment pas bien. Et puis, une fois la scène finie, je pétais la forme, quoi. Donc, c'était vraiment l'angoisse qui a fait mon
corps. Et maintenant, la scène vous fait toujours cet effet-là, Chaïm?
Non, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. C'est récent, hein. Ça fait 3 ans aujourd'hui que je monte sur scène et que je prends vraiment du plaisir. Avant, ça a été une torture et j'étais contente en sortant de scène, mais pendant, j'avais toujours ce stress, cette angoisse qui était anormale, quoi.
Et vous dites, il y a aussi cette anecdote où vous êtes tombé dans le public, et enfin vous êtes jeté dans le public et personne ne vous a rattrapé.
Non, ils m'ont rattrapé en retard, mais ça ne se voit pas sur la vidéo que ça. Mais oui,
c'est un truc que vous faisiez très souvent d'habitude.
Ouais, je l'avais fait. La première fois, c'était à Rouen et il y avait mon papa dans la salle. Ça faisait 3 ans que j'avais envie de le faire, mais il faut beaucoup de courage pour se lancer dans un public, donc je l'avais jusqu'alors pas
moi,
trouvé.
Moi, j'aurais jamais la force de me porter.
Si, ils le font. Ils le font quand on les prévient, quand on prépare les choses, chose que j'avais fait avant.
Moi, je déteste cette idée de tous ces gens qui vous tripotent là.
Ouais, mais on n'y pense pas, en
fait. Vous n'avez pas essayé, Anne, vous savez pas.
Non, alors vraiment.
Non, mais c'est génial, le saut, le plongeon, l'adrénaline qu'il y a.
C'est l'atterrissage.
Ouais, l'atterrissage quand il est loupé, c'est relou, c'est galère.
Donc là, les images ont fait le tour d'Internet quand vous avez vu.
Ah, c'est-à-dire
ça s'appelle faire une chaîne maintenant.
Ouais, c'est même pas un slam, c'est faire une chaîne. Il y a eu plein de trucs dérivés, des tournées qui étaient très drôles, effectivement, au lendemain des attentats.
Vous avez voulu le refaire.
Ah, il fallait.
Le lendemain.
L'ego, et puis quand on tombe à cheval, il faut y remonter parce que sinon, on le refait plus. Mais le lendemain, quand il a fallu ressauter, bon, je me suis mieux préparé, mais
là vous avez mis que des figurants en première
fois. Toute mon équipe.
Et maintenant vous faites toujours Chaïm de sauter dans le public.
Non, parce que j'ai fait une tournée des théâtres la dernière, donc c'était dans
plus
des
compliqué.
Tables assises, etc. Donc j'avais pas trop envie de me prendre des chaises dans les côtes, mais non, ça s'y prêtait pas.
Vous voulez pas essayer là, parce qu'ils sont venus pour ça.
Et puis ils ont l'air en forme pour la portée là.
Qu'un ami, là on sent que ça va concrétiser
c'est
bientôt.
C'est au bord.
Ah ouais, là c'est au bord de quitter la friend zone là. Qu'est-ce que ça signifie ce titre Agapé, Chaïm, de ce nouvel album?
Alors c'est un terme grec qui signifie l'amour absolu, l'amour désintéressé dans un sens très très large finalement, l'amour de ses proches, de sa famille, l'amour qu'on peut porter à soi-même aussi. Et c'est un peu la notion et le noyau de cet album-là. Voilà, c'est le fil conducteur de tous ces titres, d'où aussi tous ces featurings avec des artistes que j'aime beaucoup.
Il y en a qu'on ne connaît pas. Moi je ne connais pas VG Dream, c'est un
VG Dream.
Groupe.
Mais si vous connaissez Anne, sans le savoir vous connaissez.
Oui.
Mais vous habitez en France, Anne?
Non, je ne sais pas qui c'est.
Celui qui a chanté la chanson
des
Bleus.
Il a ramené la coupe à la maison, voilà. Mais oui. Vous l'avez entendu, vous l'entendrez encore pendant des années.
Elle a même dansé tout l'été là-dessus.
Mais oui.
Rappelez-vous
vous au camping, Anne, quand vous étiez
Il y a Youssoufa aussi.
Vous connaissez Youssoufa, qui est sur Absolem. Il y a Kemmler également qui est sur Absolem, qui a été un titre aussi et assez fort et assez déterminant pour moi et ma thérapie. Hein.
Vous dites, après 6 albums, on a envie de se renouveler. C'est ma plus belle récompense que de surprendre les gens. J'ai l'impression de tout réapprendre. C'est une confession avec beaucoup d'humour et de sérénité. Juste envie de dire les choses tout simplement et tout brutalement.
Et ben voilà.
Mais pourquoi une thérapie, vous dites ?
Parce qu'il y a des choses dans cet album particulièrement qui n'avaient jamais été dites auparavant. Comme sur Absolem, ces deux parties dites par Youssoufa et Kemmler, j'aurais pas pu les dire moi-même, j'aurais pas pu les écrire. J'avais peut-être du mal à assumer, en tout cas, et d'avoir quelqu'un qui les dit pour vous et qui sont très justes et très...
Vous dites que vous avez les larmes aux yeux quand vous avez lu ce qu'ils avaient écrit.
Ouais, j'ai mis du temps à m'en remettre, en fait, à le digérer. Et ça m'a beaucoup touchée parce que c'est des vérités dites par des gens qui ne me connaissaient pas, en tout cas qui ne connaissaient que Chaim. Et je sais qu'ils ont fait un travail énorme à écouter mes interviews, à regarder tout ce que j'ai fait pendant des années. Et le fait que ces deux artistes et ces deux hommes comprennent mes silences, mes gênes quand il y en a eu en interview, mes doutes... ça m'a fait mal, mais ça m'a fait du bien finalement. Voilà, on se rend compte que parfois les choses les plus douloureuses sont les plus salvatrices, et ça a été le cas pour cette chanson.
Mais vous parlez de vos échecs. Qu'est-ce que vous avez eu comme échec, Chaim? On a l'impression que votre vie n'est qu'un succès intégral.
Bah, elle a essayé avec moi. Je peux te dire que j'ai pas voulu. Hein.
Oui, à part Jean-Philippe Vizini qui a refusé de tomber amoureux de vous, mais à part ça,
ça a été, j'ai eu du mal à le vivre. Hein. J'ai mis du temps à m'en remettre. Mais
retente ta chance.
Non, je suis très rancunière. Non, mais justement, je crois que cette vie a toujours pour moi été comme des œillères à ce qui allait moins bien dans ma vie intime et personnelle. Et il y a toujours une envie de cacher les choses à travers sa musique, à travers ce qu'on peut montrer sur scène.
Faire semblant d'aller bien, en fait.
Ouais, il y a des moments où on fait semblant, il y a des moments où ça vous fait vraiment du bien, même si c'est éphémère. Et puis quand on se retrouve après un Bercy rempli chez soi, seul à la maison, et qu'on vieillit, qu'on grandit et qu'on arrive à un certain âge. Et
vieillit,
des choses...
33 ans, moi j'ai 53 ans, arrêtez.
Oui, mais il y a des choses...
Vous avez vexé, là, attention,
ouais. Mais il y a des choses, voilà, quand on voit ses potes autour de soi, il y a des choses qu'on a... Il y a des grandes choses qu'on a accomplies et puis d'autres choses qu'on a un peu laissées de côté. Parce
ça vous quand des amis qui ont des enfants, c'est ça vous avez
Par exemple.
Mais ça va venir.
Bah,
vous
oui,
êtes encore fertile.
Peut-être pas, mais... Normalement, j'espère.
Vous êtes peut-être encore fertile.
Mais non, mais j'ai pas dit ça, mais à 33 ans, elle a encore le temps pour avoir des enfants.
Oui, mais c'est un vrai cap.
Exactement. Voilà.
Ah, on est au même stade là, Chaim.
Pareil, le lendemain on est déprimé. Bon, moi j'ai plus 3 quand même déjà, mais.
Mais je sors d'un mariage là, c'est pareil, c'est horrible. Tout le monde a. Non.
Ah.
Bon, sinon je serais
je
pas
déprimée.
En face de vous. Mais voilà, tout le monde a des enfants, tout le monde se marie, je comprends ces questions-là existentielles que vous avez oubliées. Vous les avez oubliées.
Ah. Non, mais une fois qu'on a des enfants, on a des enfants.
Ah bon, c'est tout.
Non, mais
c'est
le rêve.
Non, mais c'est très surévalué. Non, mais c'est super, j'adore.
C'est vrai qu'après la vie s'arrête. Hein,
mais non, mais c'est super d'avoir des enfants.
Pardon de vous spoiler, mais c'est pas non plus.
Non, mais c'est merveilleux, les enfants. Mais
si vous écoutez vos filles ou pas. Ça doit leur remonter le moral.
Là, si vos filles vous écoutent, il y en a une qui est en train de dire je vais te la mettre à l'hospice. Ça va être réglé.
On dit plus hospice, mais on dit l'EHPAD. Chaim, vous dites au sujet de votre mère, elle faisait des habits elle-même, cousait des robes le matin pour le soir et sortait en soirée pieds nus.
J'ai dit tout ça, mais j'ai beaucoup trop raconté ma vie.
Et vous dites que quand vous étiez petite, vous étiez une petite fille modèle. Chaim, vous vouliez pas déplaire à votre mère.
On était très liés. Elle m'a élevée pendant des années. Et je crois que cette
toute
relation
seule.
Aussi, ouais, toute seule. La relation un peu monoparentale fait que quand on est jeune, très vite, on est très responsable. On se rend compte un peu que la situation peut être difficile pour plein de choses, émotionnellement, financièrement, etc. Donc il y avait un truc où je voulais vraiment pas la décevoir, pas être un boulet finalement. Donc j'étais assez sage, ouais.
Et donc votre papa, vous ne l'avez pas vu pendant quelques années alors ?
Pendant quelques années, ouais.
Quelques années, 5 ans, 10 ans ?
Je ne sais même plus, je pense vers l'adolescent, je l'ai retrouvé. Moi, j'ai une mémoire qui s'efface assez vite, donc avant ma vingtaine, j'ai du mal à replacer les dates et la chronologie. Mais après, c'était une période où quand on est ado, on est un peu indépendant, on préfère voir ses potes et rigoler et aller en cours que de voir ses parents. Donc c'était un moment où je l'ai revu, après on s'est reséparés et on s'est retrouvés adultes et on a reconstruit une vraie relation.
Il est fier de sa fille ?
Ouais.
Oui. Et votre maman aussi ?
Beaucoup trop.
Elle vient au concert pieds nus, votre maman ? Ou
non,
elle met des
chaussures ? Non, elle a trouvé des choses entre-temps. Elle arrête.
Chaim, après le bac, donc vous inscrivez en fac de langue et vous n'allez jamais en cours ?
Jamais. Mais en fait, j'y suis allée pour... avoir la carte imaginaire moins chère. Et donc, il fallait m'inscrire. Et j'ai dû faire un ou deux cours en amphi, juste par curiosité, voir à quoi ça ressemblait. Et après, j'ai commencé mes cours de danse.
Et pour payer vos cours de danse, vous allez faire des petits jobs dans les boulangeries ou les pizzerias.
Ouais, c'est
ça. Alors comment vous faites? Parce que moi, si j'avais travaillé dans une boulangerie ou une pizzeria, je pense que j'aurais perdu un peu de tonicité.
Mais non, mais je faisais de la danse tous les jours. En fait, je faisais mes allers-retours entre Plaisir, qui est une ville des Yvelines, jusqu'à Paris, dans une école qui s'appelle Harmonique, à Bastille. Et donc, je devais travailler à Pizza Pie à l'époque et dans une boulangerie pour payer ma carte imaginaire, parce que même moins cher, il fallait la payer. Et donc, je prenais des cours de danse tous les jours. À l'époque, je voulais être danseuse, je faisais ça à fond. Et en fait, en parallèle de la danse, j'ai rencontré des gars qui faisaient un peu de musique. Et c'est là où ça a commencé à être un peu plus sérieux dans la musique.
Vous avez parlé tout à l'heure de ce trio, en fait. Il y a Youssoupha et...
Absolem et Kemmler.
Kemmler, voilà.
Voilà, Youssoupha qui représente mon démon et Kemmler qui représente mon petit ange et qui me parle de façon très bienveillante. Voilà,
on
ce
écoute
type de 10 minutes.
On a un extrait d'Absolem. Il pleut dans mes rêves. Je suis fatiguée, mais je n'ai pas sommeil. Est-ce qu'on bronze ou on brûle au soleil? Tu pars en fumée, Absolem. Autant de sang dans de si petites veines. T'as bien fait de m'arracher les ailes. J'entends d'ici et mes cœurs te peignent. Tu pars en fumée, Absolem. Absolem, 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 Absolem.
Très joli.
Merci.
J'aime beaucoup.
Merci beaucoup.
C'est trop mignon parce qu'il y a des jeunes filles qui sont là dans le public et qui connaissent déjà votre album
par cœur. Oui, oui. Ce sont des fans qui vous suivent partout.
Ce sont mes fidèles.
Et elles vous ressemblent en plus. Ça pourrait être vos petites sœurs.
C'est vrai.
Alors, 2015, vous avez été la cible d'un duo entre Damso et Booba avec un titre Pinocchio qui était quand même extrêmement sexiste. Et là, vous leur répondez.
Ouais.
Et ça, c'est bien, ça fait du bien. Vous dites, ah là là, ils m'ont déçu. Ah là là, tu veux mon cul. Va faire la queue derrière Damso.
Voilà. C'est drôle. c'est bien dit. C'est sans haine aucune. Et c'était mérité, surtout.
Et surtout, la réponse de Damso, elle a dit que c'était une blague. Mais c'est pas acceptable, on est d'accord?
Non, c'est pas une blague. Et puis surtout qu'à un moment donné, c'est tellement facile aujourd'hui de dire des propos sur des femmes, sur des jeunes filles également, qui paraissent de plus en plus banales, mais qui sont hyper vulgaires, hyper crues et hyper sexistes, qu'il y a un moment donné où je me suis dit non, j'ai pas envie de laisser passer.
Vous avez raison. Et vous les avez recroisés, Damso et Booba, depuis?
Non, je les ai jamais. Alors, Booba, on s'est croisés il y a très longtemps dans un autre contexte, mais Damso, on s'est jamais rencontrés, d'où le va faire la queue derrière Damso, parce qu'il n'y a aucune chance et parce que en plus, il ne me connaît pas, donc à la limite, c'était tellement facile, tellement gratuit que j'ai attendu 3 ans, mais il fallait en tout cas que j'y réponde. Mais non, j'ai pas eu de nouvelles, pas de texto, rien.
Pas d'excuses?
Ah non, bah surtout pas.
Même pas un rendez-vous au Duty Free d'Orly, rien.
même pas.
En plus, vous avez fait de la boxe, vous, alors vous auriez pas peur de
ouais,
frac.
Non, je m'y serais pas frottée quand même.
Non. Non. Quand ça va pas, Chaim, vous avez une phrase que vous dites tout le temps, c'est quoi? Viens, on s'en fout.
Ah ouais, mais ça c'est un peu mon leitmotiv, c'est viens, on s'en fout, quoi. De façon polie, on peut le dire de façon différente, mais peu importe ce qu'on entend, peu importe ce qu'on vous dit, peu importe si ça fait peur, si c'est risqué, viens, on le fait, quoi. On regrettera après ou pas, mais on fonce surtout, ouais, carrément.
Ben H a hâte de vous parler, Chaim.
Oui. Tant de choses à vous dire, Chaim. Tant de choses à vous dire. Une chronique sera-t-elle suffisante, hein? Ou bien faudra-t-il y ajouter un verre, un dîner ou peut-être un week-end à Saint-Malo? Mais ne répondez pas tout de suite, je vous en supplie, laissons agir le feeling. Parce que pour tout vous dire, Chaim, le coup de foot que l'on est mutuellement en train de vivre tous les deux depuis que vous êtes entrés dans ce studio n'aurait pu jamais se produire. Ensuite, malheureusement, aux tristes événements architecturaux de la semaine, je n'avais pas le cœur à venir faire le clown. Hein. Ma famille ayant été particulièrement touchée par le drame de Notre-Dame.
Votre famille est catholique, Ben H?
Non, mais j'ai des cousins portugais. Voir de la belle pierre dans ce triste état, ça les a touchés forcément. Alors hier soir encore, j'ai appelé Anne pour lui dire d'une voix fragile que j'allais devoir m'absenter. Là, elle me dit « Dommage, on reçoit Chaim », sur quoi je réponds logiquement « Ok, faut être là, à quelle heure ?» Et me voilà face à vous dans ce studio après bientôt 15 ans à vous voir sur mon écran. Hein. Cupidon n'a plus qu'à armer sa flèche. Chaim, bonjour.
Alors, je sais très bien ce que vous dites, Chaim, hein, première question, mais qui est donc ce charmant chroniqueur aux cheveux foufous et au corps visiblement victime de malnutrition? Seconde question que vous vous posez, même si l'amour a ses raisons que la raison ignore, a-t-on au moins quelques points communs, lui et moi, hein? Ce à quoi je vous répondrai oui. Hein, j'ai lu votre bio, on a tellement de points communs, Chaim, par exemple. Vous, vous êtes chanteuse, danseuse, hyper sportive, vous prenez soin de vous, hygiène de vie au top. Bon, à part ça, ouais, tout est pareil, quoi. Tout est pareil, même si j'aime à rappeler que dans le milieu de la danse, hein, très personnellement, on m'appelle le danseur de Jive. Par exemple, là, on est pareil, c'est sur votre timidité d'enfance, hein, et sur laquelle vous avez beaucoup travaillé. Et c'est vrai qu'on le voit, ce travail. Hein. Quand je vous ai vu au Energy Music Award en bustier transparent, je me suis dit, oh, elle a bossé la timidité, là. Ça a bien avancé, hein, ce sujet. Et attention, hein, je fais référence à ce remarquable haut que je n'oublierai jamais. Hein, mais si vous avez toujours eu cette image sexy, vous n'avez jamais franchi la ligne jaune, hein, jamais vulgaire, jamais tombé dans le trash pour vendre plus d'albums, parce que de toute façon, Chaim, bah, elle en vend des tonnes, des albums. Et si je ne vous ai pas convaincu ce midi avec cette fausse assurance, hein, si je ne vous ai pas du tout séduite, eh bien la prochaine fois, je changerai de méthode, Chaim, et on réglera tout ça sur un Jive. Merci de m'avoir écouté.
Bravo, merci. J'ai beaucoup trop envie de voir la démo de Jive, du coup. Là.
Oh là, et en écrivant cette phrase, je me suis dit, putain, si elle demande ça, je suis bien dans la merde.
Et ben voilà.
Vous faites souvent draguer, Chaim?
Non, plus tant que non. Non, plus du tout. Enfin, plus du tout, non, parce que je pense que les gens me reconnaissent assez vite et du coup passent vite à autre chose. Mais non, ça fait longtemps que je ne me suis pas fait draguer.
Ah
non,
oui,
puis on va pas se mentir, il y a mieux, quoi.
Et voilà.
Passez l'été avec Anne Roumanoff. Ça fait du bien sur Europe 1.